Bonjour Frédéric Girard.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes responsable du département Tech2Co à l'IUT de Tarbes. Vous étiez venu nous voir il y a quelques mois pour nous présenter cette formation et on s'était promis de se revoir pour parler d'un autre sujet, d'un sujet qui est important et que vous portez avec beaucoup d'énergie à l'IUT de Tarbes. C'est la santé mentale des étudiants, puisque vous avez décidé de mettre le paquet, j'allais dire, pour aider les étudiants à aller bien. Alors d'abord, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut parler de la santé mentale des étudiants? Ils vont si mal que ça, nos jeunes étudiants, en France et à Tarbes?
Alors, on aimerait qu'ils aillent bien mieux, effectivement, mais un jeune sur quatre environ, par exemple, présente des symptômes dépressifs. Et on constate que grand nombre, presque la moitié d'entre eux, se disent anxieux. Voilà, donc stressés pour différents motifs, hein, mais ça peut être par les examens, naturellement, ça peut être stressé par la découverte aussi d'une nouvelle vie, la vie étudiante, quand
ils arrivent. Parce qu'il faut partir du cocon familial, quitter peut-être sa région d'origine, etc. C'est ça qui les stresse?
Alors, au début, ça les enchante, et puis ils se rendent compte, effectivement, puisque ça concerne environ 75% de nos étudiants, que c'est pas si doré et rose que ça, qu'il faut apprendre à se gérer, à peut-être vivre seul ou en colocation avec des étudiants qui s'entendent plus ou moins bien, faire la vaisselle.
Donc là, ils ont 18, 19 ans, hein, c'est ça.
Voilà, les tâches quotidiennes. Ouais. Effectivement, ils ont 18 ans, ils sortent du cocon familial et ils font la découverte de la vie. Donc,
Pardon Frédéric Girard, mais enfin, ce ne sont pas les premiers quand même à passer par cette étape-là. Ça fait des générations de jeunes qui quittent le nid familial pour aller faire les études, pour partir un peu à l'aventure. Pourquoi en 2026, c'est plus difficile pour les jeunes de vivre ça?
Parce que la société a également changé aussi, hein, les réseaux sociaux sont entrés en ligne de compte, voilà aussi une forme de précarité, alors tout dépend des milieux bien sûr, mais si je prends l'exemple du campus Tarbes, nous on a 50% d'étudiants qui sont boursiers et donc qui peuvent avoir aussi des difficultés financières au quotidien. Il faut donc mener de front les études, parfois un travail en tant que salarié. Ça met pas mal de pression en fait sur leur dos. Bon, effectivement, on a tous été étudiants. Ouais. Après, dans des conditions aussi différentes, je pense. Quand on est étudiant dans une ville moyenne comme Tarbes, on est forcément amené, là je parlais 75% des étudiants effectivement viennent de l'extérieur, ouais. Donc ils sont loin quand même de leur famille. Alors c'est vrai que moi, par exemple, j'étais à Paris, j'étais pas très loin, je revenais dans la famille le soir, enfin j'étais pas livrée à moi-même, et cet apprentissage là peut-être peut effectivement être source d'un certain stress.
Ces jeunes là, quand ils sont dans cette situation de stress, quel recours ils ont au fond? Est-ce qu'ils ont plus de difficultés aujourd'hui à tisser des liens d'amitié, pour que ça aille mieux, pour avoir des groupes d'amis, pour pas être seul? Vous parliez des réseaux sociaux par exemple. On peut imaginer que ces réseaux sociaux pourraient les aider justement.
Alors ça dépend de la personnalité aussi de chacun. Pour certains, les réseaux sociaux, c'est le seul moyen finalement de rencontrer d'autres personnes. Mmh. Et dans ces cas-là, je pense notamment aux étudiants qui sont sur les jeux vidéo et qui jouent en réseau. Donc ça peut être tout à fait positif. Par ailleurs,
mais la rencontre n'est que virtuelle.
Mais la rencontre n'est que virtuelle et au quotidien pour aller bien, pour avoir une bonne santé mentale, il faut aussi bien sûr avoir un lien social, en général physique, sortir, vivre des expériences en temps réel et irréel. Et puis faire du sport, voilà, avoir ce type d'activité variée. Et donc si on est uniquement centré sur son ordinateur, les réseaux sociaux, etc., bah, il manque quelque chose quand même dans le bien-être quotidien.
Ces difficultés là que vous décrivez, elles touchent plus les jeunes filles ou les jeunes hommes, ou c'est kiff-kiff bourricot?
J'ai l'impression que c'est équivalent. Il n'y a pas tellement de différence entre les garçons et les filles. Après, il peut y avoir des différences en fonction des formations. Je vois par exemple à l'IUT, on a une formation métier du multimédia et de l'Internet.
Oui.
Et c'est vrai que le profil de ces étudiants est un peu plus particulier. Ils sont plus solitaires. Donc,
parce que plus sur les écrans.
Plus sur les écrans, ouais. Et souvent, bah, c'est des gamers, donc qui sont vraiment habitués à justement aux jeux en réseau, à être plutôt seuls. Alors que bon, moi, mais les étudiants de mon département donc de commerce sont plus ouverts. Il y a l'effet de bande, voilà, ils sortent assez facilement ensemble. Donc voilà, il peut y avoir aussi des différences de personnalité,
ouais.
Parce que c'est pas les mêmes personnalités qui font n'importe quelle étude en fait. Donc
alors,
il y a un impact.
En tous les cas, on entend que la santé mentale, elle peut dépendre de facteurs sociologiques, voilà, qu'elle dépend aussi un peu de la formation et du caractère du jeune, mais il y a d'autres facteurs. Vous me disiez en préparant cette émission que les facteurs un peu nouveaux, ou en tous les cas qui posent vraiment un problème aujourd'hui, ce sont les dépendances à l'alcool, aux drogues, etc. Et ça, c'est un paramètre vraiment important dans l'état psychologique ou dans la santé mentale des jeunes étudiants aujourd'hui.
Alors ça entre en ligne de compte, mais c'est un élément parmi d'autres. Je dirais que le premier élément, c'est quand même l'isolement, voilà, l'éloignement familial, qui peut être une source de problèmes. Mais après, effectivement, il y a cette découverte de la vie étudiante, des soirées, des excès.
Donc c'est pas bien de rester tout seul, mais
voilà,
quand on sort, faut faire attention.
Voilà, effectivement. Donc c'est bien d'avoir un équilibre, tout simplement, faire du sport, sortir, mais peut-être ne pas consommer avec autant d'excès, notamment de l'alcool, hein, qui reste quand même la première source d'addiction chez les jeunes.
Avant le cannabis.
Alors oui, avant le cannabis. Le cannabis vient ensuite. Après, c'est vrai qu'il se vulgarise de plus en plus. Bon, pour ce qui est des...
Ça veut dire quoi, pardon? Ça veut dire quoi, se vulgarise de plus en plus? Ça veut dire que c'est très accessible aujourd'hui?
Oui.
C'est facile de se procurer du cannabis et que tout le monde peut en avoir quand il veut, c'est ça?
Oui, tout le monde peut en avoir quand il veut, dans les soirées, ça circule et c'est très... Voilà, c'est très simple. Donc la tentation, elle est là. Ils n'ont pas forcément cette idée de la mesure... Au démarrage, je parle de l'alcool, hein, bien évidemment,
ouais.
Parce que on n'arrête pas de leur répéter que le cannabis a des effets délétères sur le cerveau.
Ouais.
Jusqu'à l'âge de 25 ans, les connexions nerveuses ne sont pas terminées, donc le cannabis détériore les neurones et peut dégénérer sur par exemple des crises de schizophrénie et des schizophrénies une schizophrénie qui s'installe
irréversible, donc
oui.
Et quand vous leur dites ça, ils vous croient, ils réagissent comment?
Ils nous regardent avec des yeux ronds, ils se regardent en se disant tiens, on prend des risques. Je pense.
Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'IUT et des enseignants de veiller à la santé mentale des étudiants et de les alerter sur les dangers potentiels qu'ils peuvent prendre en consommant avec excès de l'alcool, du cannabis ou autre chose?
Alors oui, ça fait partie de nos missions aussi d'accompagnants. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je viens avec une casquette un peu particulière puisque je suis formatrice en premier secours en santé mentale. Et donc, on a cette possibilité sur le campus de l'UTOP, parce qu'on parle de l'UT, mais c'est le campus de l'Université Technologie Tarbes-Occitanie-Pyrénées, plus globalement, de faire des formations auprès des étudiants, justement pour leur apprendre à détecter chez les autres et aussi chez eux-mêmes, hein, les premiers signes en fait d'un mal-être psychologique. Donc on forme des étudiants, on forme également des personnels, hein, ça peut être des personnels techniques certes, ou des secrétaires qui sont en relation assez fréquente avec les étudiants, des directeurs d'études qui communiquent quotidiennement au sujet notamment de l'absentéisme. Donc toutes ces personnes peuvent être elles-mêmes des relais d'information, de prévention et les premiers peut-être à évaluer chez un étudiant quelque chose qui ne va pas.
On marque une petite pause, Frédéric Girard. On se retrouve dans un instant, puis vous allez nous expliquer justement quels sont les signaux qui manifestent que ça va pas bien pour un étudiant. À tout de suite. Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Girard. Nous parlons de la santé mentale des étudiants à Tarbes et au-delà de Tarbes, puisque c'est un sujet qui concerne les jeunes partout en France et sûrement partout ailleurs. Vous nous parlez, Frédéric Girard, de cette formation premier secours en santé mentale qui est proposée pas seulement aux élèves, mais aussi aux formateurs hein, au sein de l'UTOP. Ça veut dire qu'il y a des signaux qui sont repérables, peut-être plus facilement que d'autres, pour dire attention, cet étudiant-là, il va pas bien, on doit faire quelque chose pour lui. Quels sont ces signaux, les premiers signaux qui vous sautent aux yeux pour voir qu'un étudiant va pas bien ?
Je dirais tous les changements qu'on peut observer chez cet étudiant. Donc ça peut être des changements de comportement. Un étudiant qui participait bien en classe, par exemple, et puis soudainement, il s'isole, il a des difficultés il a plus d'appétit finalement à entrer en relation avec les autres dans la classe, avec les autres étudiants. Donc voilà, ça peut être un changement comportemental, ça peut être un changement d'humeur hein, au niveau des émotions, plus...
Donc ça, c'est pas forcément lié à un produit addictif, mais ça peut être simplement le moral qui dégringole, quoi.
Ah oui, bien sûr. C'est pas la seule source, hein, ouais. L'addiction. L'addiction, en général, elle vient pour compenser un problème
c'est
d'anxiété.
C'est que ça va déjà pas bien
voilà.
Avant, quoi.
C'est corrélé, ouais. Effectivement, aux maladies, aux troubles psychiques en général. Ouais. C'est-à-dire que dans tous les troubles, que ce soit la dépression, l'anxiété et troubles, voilà, dans la globalité, les addictions, drogue et alcool sont toujours très associées.
Donc c'est la dégringolade, ça peut aller assez vite. Et vous êtes là pour dire, avec cette formation premier secours en santé mentale, pour dire attention, là, on a repéré qu'il y a des choses qui ne vont pas. On va le repêcher. Comment vous faites, en fait, une fois que vous avez repéré qu'un jeune ne va pas bien, quel levier vous avez pour lui venir en aide, en fait? Et les personnes qui suivent cette formation premier secours santé mentale, quel levier elles ont aussi, ces personnes-là, une fois qu'elles l'ont détecté, ce jeune qui ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait?
Alors déjà, la première chose, c'est de leur donner quelques connaissances sur les différents troubles psychiques. Donc on aborde les plus courants. Alors nous, on est formateurs, avec mon collègue, donc on est deux sur l'UTOP. On est formateurs pour les adultes, donc c'est à partir de 18 ans, avec des troubles qui sont bien spécifiques, parce que sur la formation jeune, donc plutôt destinée aux collégiens et lycéens, il y a d'autres troubles qui peuvent être en jeu, comme par exemple les troubles du comportement alimentaire ou la scarification. Donc nous, on aborde les quatre grandes familles de troubles psychiques, les troubles de la dépression, les troubles psychotiques, les troubles anxieux et les addictions. Donc déjà, on leur donne un certain nombre de connaissances. On les met en situation aussi de jeu de rôle, où ils doivent... on crée des jeux de rôle, donc il y a forcément une personne qui va mal et une personne qui accompagne. Donc on leur apprend en fait un protocole d'action qui aujourd'hui a été éprouvé par scientifiquement aussi et ça fait partie du protocole de l'association Premier Secours en Santé Mentale. Donc en fait ce sont des techniques d'approche, comment on fait quand on perçoit qu'un camarade ne va pas bien, s'isole, devient plus irascible, par exemple.
C'est pas simple.
Voilà, c'est pas simple. Mmh. Comment l'approcher et lui dire, tout en évitant, bien évidemment, de l'évaluer, de le juger, être dans une optique d'écoute active, bienveillante. On apprend des techniques pour justement le rassurer, faire par exemple des comparaisons. Bien évidemment, il ne s'agit pas de dresser un diagnostic parce que on ne forme pas des médecins et nous ne sommes pas médecins.
Mais dire que il peut être aidé, quoi, qu'il n'est pas seul.
Mais voilà, c'est de dire, tu te rends compte, peut-être avant, tu sortais, t'avais l'air toujours très, très enthousiaste, et du jour au lendemain, tu t'isoles, tu vois plus tes amis, tu fais plus de sport, et qu'est-ce qui ne va pas ? Donc, essayer d'enclencher, en fait, un dialogue, rassurer, encourager à aller voir des professionnels de santé. Les professionnels de proximité, déjà, c'est l'infirmière de l'établissement qui redirige aussi sur la psychologue de l'établissement qui fait quelques heures de permanence donc sur le campus. Mais ça peut être aussi informer sur des ressources existantes, sur les types de thérapies, sur différents dispositifs qui sont à disposition des étudiants.
Et ça marche, enfin, vous avez vu déjà des résultats, des étudiants qui n'allaient pas bien, qui ont accepté d'être accompagnés et qui ont pu remonter la pente. Vous êtes témoin de ça aussi. Quels résultats vous avez sur cette formation ?
Alors, de ceux qui... Je ne peux pas savoir ceux qui vont voir d'autres étudiants. Ouais. Là, j'ai pas de
contrôle. En tous les cas, ils sont
contrôle.
Repérables. Les étudiants qui sont formés, qui peuvent aider les autres, on peut les repérer.
On les identifie, oui. Maintenant, ça reste une démarche très personnelle, en réalité. Et l'idée, c'est surtout de faire un soutien de proximité. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire je peux intervenir avec des étudiants que je ne connais pas. Alors, s'ils ont l'opportunité de le faire, pourquoi pas, ça peut être au cours d'une soirée ou autre. Mais nous, on se dit que plus il y a d'étudiants formés et plus au moins dans leur cercle vraiment intime, personnel, ils seront en capacité de repérer des petites choses qui ne vont pas dans leur entourage. Voilà. Rien que ça, ça serait super.
Parmi nos auditeurs, il y a peut-être des parents qui s'apprêtent ou qui sont en train de chercher un lieu d'études pour leurs enfants pour l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents pour les rassurer ? Parce que là, on dresse un tableau qui est un peu dramatique, mais tout n'est pas noir quand même. Il y a des belles choses aussi dans la vie étudiante, Dieu merci. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents ? Sans doute que les parents sont les premiers collaborateurs de la santé mentale de leurs enfants.
La question, c'est quand les enfants s'éloignent des parents. Bien évidemment, au quotidien, être attentif à son enfant, repérer justement tous ces changements.
Donc un enfant qui appelait beaucoup et qui d'un coup n'appelle plus fréquemment ses parents, là ça peut être un signal que peut-être ça ne va pas très bien à l'autre bout de la France.
Oui, ou dans l'intonation. Après, il y a aussi des enfants qui savent bien mentir pour ne pas... ne pas effrayer les parents, ne pas les inquiéter. Après, ça se sent quand même quand un enfant va bien, quand il fait part de ses projets, ouais. Quand il s'exprime, s'il est enthousiaste, ça se sent en fait. Après, nous, on met en place quand même un dispositif d'accompagnement assez rapproché parce qu'on est très attentif à l'assiduité et c'est un indicateur important de bien-être déjà. Un étudiant.
Oui, un jeune qui vient plus en cours, c'est un jeune voilà. Qui y a quelque chose qui va pas
voilà.
De toute façon.
Exactement. Et donc, dans ces cas-là, on l'appelle, on essaye de comprendre la raison. Des fois, il vient spontanément nous l'expliquer. Mais je pense que c'est effectivement être attentif au changement. Voilà. C'est le changement qui interpelle.
Merci beaucoup Frédéric Gérard. Peut-être qu'on peut terminer quand même en disant, je ne sais pas si vous l'avez ce chiffre, mais le nombre de personnes à l'IUT de Tarbes et à l'UTOP de manière plus large qui sont formées à cette formation premier secours en santé mentale. Est-ce que d'abord ça existe depuis combien de temps et combien de personnes ont pu se former ?
Alors nous ça fait 3 ans. Alors depuis on a des étudiants qui sont partis hein, parce que la formation dure 3 ans aussi. Donc
ils y veilleront ailleurs.
Voilà,
là où
voilà.
Ils sont, ils
seront. Et on fait 3 sessions par an de 16 étudiants environ. Et par contre il y a une bonne cinquantaine de personnels formés. Au premier secours en santé mentale à l'UTOP, aussi bien à l'école d'ingénieurs que à l'IUT.
Voilà, merci beaucoup Frédéric Gérard. C'était vraiment très important d'aborder cette question de la santé mentale de nos jeunes étudiants. Ils sont quand même quelques-uns à Tarbes et c'est important voilà, de veiller à cette santé mentale. C'est ce que vous faites à travers donc, cette formation premier secours en santé mentale déployée à l'UIT de Tarbes et à l'UTOP. Merci beaucoup Frédéric
Avec
Gérard.
Avec plaisir, merci de m'avoir donné cette opportunité.